9h, 11h,
Europe 1 Culture Média,
Philippe Vandel.
Et on accueille Philippe Vandel, notre premier invité média.
Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le QI moyen est en train de baisser. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un scientifique. Il est docteur en neurosciences et directeur de recherche à l'INSERM. Bonjour Michel Desmurgés.
Bonjour.
Vous publiez aux éditions du Seuil, La fabrique du crétin digital, un essai très documenté, très argumenté. Il est sous-titré « Le danger des écrans pour nos enfants, c'est quoi ce danger ?»
C'est un danger général qui touche tous les facteurs du développement, c'est bien ce qui fait problème. Donc ça touche le développement intellectuel, ça touche le langage, ça touche l'attention, ça va toucher la mémorisation, ça va toucher après le développement émotionnel, le développement social à travers des causalités des facteurs qu'on connaît. Donc le danger, c'est effectivement une mise en danger du développement et le fait que le cerveau des enfants, contrairement à ce qu'on nous dit, qui est un cerveau quand même assez ancien, puisque voilà, c'est un cerveau qui vient de l'évolution, est pas fait pour ce programme-là.
Les écrans, c'est-à-dire les ordinateurs, c'est-à-dire les tablettes, c'est-à-dire les smartphones, il y a des enfants qui ont des smartphones très très jeunes, vous donnez des chiffres sur le temps d'exposition aux écrans suivant les âges des enfants.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que ces chiffres, que les études soient faites en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Nouvelle-Zélande, en Australie, c'est à peu près les mêmes chiffres de partout. Ils sont assez astronomiques. Des enfants de 2-3 ans, on frise déjà les 3 heures par jour. Des enfants de 8 ans, on frise les 5 heures. Et puis les adolescents, ça devient stratosphérique, puisqu'on est entre 6h30 et 7h. C'est trop, c'est juste extravagant, c'est hors norme. C'est pas excessif, on dit c'est excessif et tout, faut faire attention. Mais là, on est au-delà de l'excès.
Vous nous expliquerez en quoi c'est excessif et quelles conséquences sur le développement cérébral. Les digital natives dont on nous rebat les oreilles depuis l'an 2000, j'entends que ça, des gamins qui seraient nés avec un portable en main, qui seraient tous des petits génies en informatique, vous dites que c'est un mythe, voire du pipeau complet.
Ah oui, c'est ce que les chercheurs appellent une légende urbaine, mais en même temps c'est un mythe bien pratique parce qu'il permet face aux problèmes qu'il y a sur le langage, sur l'attention, etc., dont on reparlera, ça permet de dire, ils apprennent, ils savent différemment. Quand on regarde, effectivement, ils sont capables d'utiliser des applications trivialissimes, dont un cadre dirigeant de Google nous disait, on fait nos applications, et ces applications en général sont faites pour être aussi faciles à utiliser qu'une brosse à dents, et c'est pas parce que vous savez utiliser ces applications que vous avez utilisé tout ce que le numérique peut avoir positif. C'est pas une technophobie maniaque.
Bien
le
sûr.
Numérique a des choses, des aspects positifs. Ici, vous l'utilisez, moi, je l'utilise dans mon travail. Mais le fait d'utiliser Facebook et d'aller sur Snapchat et de savoir télécharger un podcast ne fait pas de vous un grand informaticien.
Oui.
C'est comme si on me disait, je suis un grand cuisinier parce que je vais manger chez Bocuse. Ça n'a pas de sens.
Ouais, c'est rien à voir avec le petit génie qui saurait démonter et remonter une montre. C'est pas du tout ça. Alors, on nous explique qu'il faut vivre avec son temps, que le cerveau est plastique, qu'il s'adapte à tout, donc y compris aux écrans. Vous dites pas du tout.
Alors, le cerveau, il s'adapte, mais c'est pas parce qu'il s'adapte bien. Moi, je peux m'adapter à 6000 mètres, mais je vais pas être aussi efficace qu'au niveau de la mer si je me mets à courir. Et puis, notre cerveau, encore une fois, je l'ai dit, il vient de l'évolution.
Ouais.
Et donc, l'évolution a posé un certain nombre de contraintes sur le cerveau. Il y a une contrainte, c'est l'humain. C'est-à-dire que la même information délivrée par un écran et délivrée par un humain, mon cerveau réagit pas pareil.
Ça se quantifie ?
Oui, ça se quantifie. Ça a été fait par des études qu'on appelle EEG, donc on enregistre l'activité électrique du cerveau. Ça a été fait, c'est une anecdote, ça a été fait la première fois par un chercheur qui travaille sur un certain type de neurones, sur des neurones miroirs. En fait, c'est des neurones, si je vous souris, ou mes neurones vont réagir de la même façon que si je vous vois sourire.
Ouais.
Et en fait, il en a eu marre de faire des grimaces à ses singes, ce chercheur. Et donc, il s'est filmé en vidéo en train de faire ces mêmes grimaces à ses singes. Et les neurones qui réagissaient de façon extrêmement importante et intense, soit ne réagissaient plus du tout, soit réagissaient de façon complètement marginal. Mais il y a plein d'exemples. C'est-à-dire, si vous allez, je sais pas, si vous allez à l'opéra, si vous allez au match de foot, c'est pas du tout la même chose de l'avoir en présentiel que de le regarder à la télé.
Ça, on est tous d'accord. Mais moi, ce que j'ai appris avec vous, parce que je m'avais pas échappé qu'un match à la télé dans le stade, c'était différent. Ce que j'ai vraiment appris avec vous, c'est que quand on apprend des nouveaux mots à des enfants, c'est totalement différent que ce mot soit enseigné par un écran ou par les parents ou par un prof, en tout cas par un être en chair et en os.
Oui, ça fait partie des choses de lobbyiste. Alors un enfant, si vous le mettez devant Dora ou un programme comme ça, il va finir par apprendre un mot. Je veux dire, il va finir par beugler 1, 2, 3, yellow et tout le monde va s'extasier en disant il parle anglais. En fait, on s'aperçoit que des enfants jeunes, si vous les exposez à 2-3 mots avec un humain, je veux dire, il regarde le verre, la maman ou le papa dit verre, et le gamin, au bout de 2 fois, il a compris verre.
Mmh.
Avec ces outils-là, on s'aperçoit qu'il faut entre 20 et 60 répétitions pour qu'il arrive à percuter verre. Et encore, il va avoir du mal. Le gamin, quand il a appris verre avec un adulte, que ce soit un grand verre, un petit, un verre à pied ou un verre de table, il va faire la différence. Mais quand il l'a appris avec ce genre de truc, eh ben, il apprend que le verre qu'on lui a montré, pas d'autre.
C'est incroyable ce que vous racontez. Ça me rappelle une histoire de mon enfant quand il était tout petit. L'ascenseur, il l'appelait Il arrive. Parce que 2 ou 3 fois, il m'a entendu dire devant l'ascenseur Il arrive. Et il a cru que c'était le nom de l'ascenseur. Donc il a suffi 3 fois pour qu'il apprenne le nom. Après, Je lui dis c'est pas ça, c'est un ascenseur. Il a réappris le nom aussitôt. Donc votre livre dit vrai. Vous donnez une statistique qui fait froid dans le dos. Sans écran, un enfant entend 1000 mots par heure. Avec écran, seulement 150 mots. Et vous parlez des jeux vidéo. Certains disent que ça permet de stimuler le cerveau. Qu'en dites-vous ?
Alors, c'est un peu comme si je vous disais, le tabac, c'est extrêmement positif parce que ça permet d'avoir un effet marginal sur le poids. Quand on regarde, il y a certains effets marginaux, notamment sur l'attention visuelle. C'est-à-dire que si vous mettez tout un tas de lettres sur un écran et que vous demandez à deux personnes est-ce qu'il y avait un B dans les lettres, le joueur de jeu vidéo, il va vous répondre 100 millisecondes plus vite. Donc, c'est marginal. De ça, on a fait tout un pataquès en nous expliquant qu'ils avaient plus de concentration, plus d'attention, alors qu'on s'aperçoit que c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est l'inverse de la concentration. Les jeux vidéo, ça nous apprend à être attentif à tout ce qui se passe à l'extérieur dans le monde. En gros, ça nous apprend littéralement à être distrait. Il faut faire, dès qu'un événement se passe dans notre environnement, on se jette dessus. La concentration, par exemple, c'est l'inverse. Toutes les études confirment le fait que les jeux vidéo ont un effet négatif sur les résultats scolaires, toutes les études faites proprement. Et ça, c'est intéressant, parce que les résultats scolaires ne disent pas tout de l'enfant, mais ils disent un certain nombre de choses de sa structuration intellectuelle, de sa structuration émotionnelle et de ses compétences sociales. Donc, c'est vraiment le paramètre le plus général qu'on a de développement. Et toutes les études montrent que les jeux vidéo... Il y en a de très bien faites. Je ne sais pas si on a 3 secondes pour développer. Par exemple, non, on n'a pas le temps.
On n'a pas le temps, bon, parce qu'il y a tous les parents qui nous écoutent et qui se disent « Mince, aurais-je fait fausse route dans l'éducation de mon enfant ?» On leur répond juste après ça.
On va en continuer à en parler avec notre invité média, Michel Desmurger, docteur en neurosciences, qui nous parle de son livre sorti aux éditions du Seuil, La fabrique du crétin digital, qui parle des dangers des écrans pour nos enfants. Vous pouvez réagir sur Twitter via notre compte @E1CultureMédia, tout accroché. La suite de Culture Média, c'est juste après ça, sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et dans Culture Média, on continue à parler du danger des écrans pour nos enfants avec notre invité, le docteur en neurosciences Michel Desmurger, à travers son ouvrage La fabrique du crétin digital aux éditions du Seuil, Philippe.
Et c'est sous-titré Les dangers des écrans pour nos enfants. Justement, est-ce que tous les écrans, que ce soit le smartphone ou l'ordinateur ou la tablette, ont le même effet négatif ?
Pour une bonne part, contrairement à ce qu'on pourrait croire, oui, parce que, par exemple, quel que soit l'écran, vous allez voler du temps à des activités beaucoup plus nourrissantes, le sommeil, les interactions intrafamiliales, etc. Et donc, pour une bonne part, oui.
Alors, qu'est-ce que vous pensez des écoles et des lycées et des collèges qui achètent pour les élèves des ordinateurs et des tablettes à tour de bras ?
Je pense qu'il y a une logique économique évidente. Je pense que vous avez du mal à recruter des enseignants. Donc, si vous pouvez remplacer une partie des enseignements par des tablettes...
Attendez, je vous interromps. J'ai même vu un reportage qui dénonçait la fracture numérique et qui montrait des classes de banlieue, je cite, « privées d'ordinateurs contrairement aux beaux quartiers ».
Alors, toutes les études montrent que si vous avez un ordinateur ou rien, il vaut mieux avoir un ordinateur. Si vous avez un enseignant compétent ou un ordinateur, il vaut mieux un enseignant compétent toujours. Si vous avez un enseignant compétent et un ordinateur, ça ne fait pas beaucoup de différence avec un enseignant compétent. Les études, notamment les études PISA, les études de comparaison internationale, montrent que plus les pays ont investi dans les ordinateurs et dans l'informatique, et plus les résultats scolaires des enfants ont eu tendance à baisser. Encore une fois, si c'est juste mettre des ordinateurs à côté des enseignants compétents, il n'y a pas de problème, mais on a beaucoup de mal à recruter des enseignants, ça coûte très cher, donc on ne peut plus. Donc, on va donner une partie de la charge d'enseignement. Il ne s'agit pas d'apprendre le numérique, il ne s'agit pas de leur apprendre à utiliser un ordinateur, il s'agit d'utiliser l'ordinateur à la place de l'enseignant. Et ça, clairement, pour les raisons qu'on précisait au début, ça ne marche pas.
Donc, c'est peut-être pas pour rien si les pontes de la Silicon Valley, c'est-à-dire les grands patrons d'Apple, Microsoft, IBM, Facebook, placent leurs enfants dans des écoles privées dans lesquelles les écrans sont bannis, seulement des livres et des cahiers. Alors maintenant,
si tu peux me permettre, ça augmente, toutes les études montrent que ça augmente les inégalités sociales, justement parce qu'il n'y a pas
d'humain.
En plus, oui, ça c'est clairement établi, oui.
Maintenant, je pense à tous les parents qui nous écoutent et qui se disent « Mince, j'ai laissé mon enfant tout seul avec son ordi ou sa tablette, zut, je lui ai donné un smartphone à l'âge de 10 ans quand il est entré en 6e. Que leur répondez-vous pour les rassurer ? Ou alors, parce qu'ici on va être franc, est-il impossible de les rassurer et le temps perdu est perdu ?
Il est possible de les rassurer, il y a énormément de choses qui sont réversibles, des choses qui sont liées au sommeil, qui sont liées aux interactions familiales, qui sont liées à la lecture, qui sont liées aux résultats scolaires. Par exemple, il y a des études, vous mettez des écrans dans la chambre de l'enfant, vous l'enlevez, et vous suivez les résultats scolaires. Quand les écrans sont pas là, ça remonte, mais c'est 15 à 20% de différence sur la moyenne, assez rapidement. Quand ils sont là, ça redescend, ça remonte. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui sont réversibles. Et puis surtout, des règles simples, comme pas le soir quand on mange, etc., pas le matin avant l'école, pas plus d'une heure et demie ou d'une heure par jour.
Gardez le meilleur pour la fin, car dans votre livre, vous notez 7 règles simples et on va terminer avec ça. D'abord, je vais vous faire entendre le témoignage de Laetitia. C'est une maman dont le fils regardait les dessins animés et les comptines sur YouTube depuis l'âge de 18 mois, un an et demi. Pour elle, évidemment, c'était inoffensif. Jusqu'au jour, elle va consulter un médecin. Elle est au micro de Louise Bernard.
J'ai consulté parce que je trouvais qu'il y avait un problème. je trouvais qu'il parlait moins bien que son frère à son âge. Il parlait moins et moins bien. Et que c'était plus compliqué, en fait, d'avoir des interactions avec lui. Quand on l'appelait par son prénom, il réagissait pas toujours.
Et il avait quel âge à ce moment-là ?
Il avait 2 ans et 8 mois. J'ai vu la pédiatre, donc elle m'a parlé des écrans. J'ai entendu, mais en même temps, voilà, c'est parfois un peu compliqué quand on est maman et on travaille à plein temps. Avec 2 enfants, c'est plus facile en fait le soir en rentrant du travail et de l'école. À la télévision, on n'a pas forcément le temps de s'en occuper parce qu'il faut, voilà, il faut préparer les repas, s'occuper des douches, etc. Et donc c'était plus facile en fait. Pour moi, c'était pas si grave les écrans.
Mais vous décidez quand même d'arrêter de l'exposer aux écrans. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
En 1 mois et demi, enfin presque 2 mois maintenant, il était beaucoup plus intéressé en fait par nous parler. Tout le monde remarque d'ailleurs les grosses différences qu'il y a, qu'il a beaucoup changé.
Alors là, ça va parce que l'enfant est petit, mais comment lutter contre l'usage addictif aux écrans ? C'est déjà difficile pour soi-même, alors comment l'imposer à des enfants ? Comment faut-il faire ? Est-ce qu'il faut interdire, discuter, les deux à la fois ?
Je crois qu'il faut expliquer d'abord, ça marche beaucoup mieux. Les études montrent que quand on explique, les enfants adhèrent beaucoup mieux et que les règles sont beaucoup mieux respectées. Après, comment dire, mieux vaut prévenir que guérir. C'est-à-dire que plus vous allez exposer un enfant tard, c'est-à-dire avant 6 ans, il n'a pas besoin d'écran, il y a que des effets
négatifs. Ça, c'est votre première règle, pas d'écran avant 6 ans.
Il n'y a pas d'effet positif, donc il n'y a pas de raison. Et ce n'est pas parce qu'ils ne les utilisent pas avant qu'ils ne seront pas capables d'utiliser l'informatique après.
Après 6 ans, pas plus de 30 minutes à 1 heure par jour.
Après 6 ans, la littérature montre qu'il n'y a pas d'effet jusqu'à 30 minutes. Si on fait une lecture positif jusqu'à 1 heure, à condition que les contenus soient adaptés. Vous ne mettez pas un gamin de 10 ans devant des jeux hyper violents avec des scènes hyper sexuelles comme les jeux vidéo comme GTA. Et puis, vous respectez le sommeil. Je veux dire, même la comédie la plus sympa, si le gamin il se couche à 20h, 23h le soir, ça ne peut pas fonctionner. Donc, en respectant ces deux règles, effectivement, jusqu'à 1 demi-heure, voire 1 heure par jour, il n'y a pas de problème et d'impact négatif.
Pas le soir avant de dormir, c'est la règle 6. La 5, pas le matin avant l'école. La règle 7, dites-vous, une seule chose à la fois, pas d'écran pendant qu'on dîne, pendant qu'on déjeune, pendant qu'on fait les devoirs, pendant les discussions familiales.
Oui, parce que ça crée des... Enfin, faire plusieurs choses à la fois, ça pose des problèmes, ça fait souffrir le cerveau, littéralement, et ça facilite les problèmes d'inattention
vous
à
avez,
long terme.
Vous avez des enfants ?
Oui.
Et vous arrivez à l'appliquer chez vous ?
Oui, tout à fait. Mais parce que j'ai commencé tôt avec la petite, et peut-être que j'ai un peu exagéré, parce que maintenant, elle ne veut même plus de portable.
Mais voilà, vous allez recevoir donc... du courrier de parents qui vont vouloir faire comme vous. Vous allez voir que vous allez faire des séminaires.
Non, mais il y a entre 5 et 10% des enfants, selon les études, qui n'en ont pas et qui se portent très bien. Je connais plein d'études qui montrent des effets négatifs. Je n'en connais aucune qui montre qu'il y ait un détriment à ne pas en avoir.
Merci beaucoup, Michel Desmurgés, docteur en neurosciences, auteur de La Fabrique du Crétin Digital. C'est aux éditions du Seuil. Culture Média, ça continue évidemment. Après le rappel des titres de 10h, on va parler culture. On va recevoir Christophe Alévèque qui revient au Théâtre du Rond-Point pour son spectacle. Christophe Alévèque ne veut pas s'en aller, une revue de presse qui défroille dans tous les sens. Évidemment, Hélène Manarino va nous dresser le portrait inattendu d'Alévèque. Et puis dans les indispensables, on va prendre la direction de la journée du patrimoine où l'on épluchera le programme du week-end. Il sera aussi question de comics et de 3 histoires avec Batman. Et ça aussi, c'est de la culture.
Et c'est dans un instant sur Europe 1.